Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Tati Mampoukou.
Okapi.
Chers auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment susciter la culture de la lecture chez les Congolais? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec le professeur Barthélémy Kalamba Ibanza. Il est démographe et directeur du Centre de renforcement des capacités d'études sur la santé, la population et le développement. Il intervient depuis Kabinda dans les Kasaï. Professeur Barthélémy Kalamba, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour et merci, cher Tati.
Chers auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, suggestions et propositions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Daniel Manganza-Lizoka, étudiant en Master 1 Droit Pénal à l'Université de Kisangani. Selon cet internaute, pour susciter la culture de la lecture chez les jeunes, il est important de faciliter l'accès à des livres variés. Cela peut se faire à travers des bibliothèques scolaires et universitaires, puis publiques, dotées des ouvrages, en créant des espaces de lecture attrayants où les jeunes peuvent se plonger dans les livres. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ce numéro sous la supervision des gens Marc Matouaki. Billy Landry Betou réalise et assure la prise de son de ces rendez-vous. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment susciter la culture de la lecture chez les Congolais? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec les professeurs Barthélémy Kalamba Ibanza. Nous rappelons qu'il est démographe et directeur de CRESPO de SARL. Combien d'écoles de Kinshasa et des autres villes de la République démocratique du Congo disposent d'une bibliothèque digne de ces noms? La question semble banale, hein, mais elle révèle les gouffres qui s'est creusé entre la population congolaise et la lecture, voire la littérature dans son ensemble. Même dans les universités, rares sont celles qui ont des bibliothèques dignes de ces noms. Celles qui en possèdent sont souvent encombrées de livres démodés, de vieux livres, des livres dépassés ou des mémoires d'étudiants. Les fonds documentaires ne sont pas actualisés régulièrement et ils sont peu nombreux les Congolais qui fréquentent la bibliothèque ou une librairie. Alors, la grande question que l'on se pose, comment susciter la culture de la lecture chez les Congolais? C'est le thème que nous abordons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Professeur, ce sujet, nous l'avions abordé le lundi, mais il avait vraiment un goût d'inachevé. Et vous confirmez réellement que de plus en plus, les Congolais lisent moins.
Merci Tati. Oui, je confirme que les Congolais lisent moins ou presque pas. Ils lisent moins, je dirais même presque pas. Parce que les statistiques les prouvent. J'avais indiqué le lundi que les grandes enquêtes démographiques ont démontré que en 2007, il n'y avait que 9% des femmes qui avaient indiqué lire un journal ou un magazine ou un quelconque document une semaine avant l'enquête. Et cette proportion est passée de 9 à 5% en 2023-2024. En ce qui concerne les hommes, ils étaient 27%. Ils représentaient 27% en 2007. Et en 2009, ils sont passés, cette proportion est passée à 11%. Eh bien, c'est comme ça que je vous dis qu'on ne lit pas, on ne lit presque pas.
Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les facteurs qui ont occasionné cette baisse vertigineuse hein, de la lecture en République démocratique du Congo?
Bon, il faut d'abord dire que, est-ce qu'on peut parler de la baisse? Parce que déjà avec 9% des femmes en 2007 pour passer à 5%, de 27% des hommes on passe à 11%, ça voudrait dire que ce phénomène de non-lecture ou absence de lecture date de très 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 longtemps, c'est une affaire de décennies. Pour pouvoir arriver à 9%, à 27% en 2007, ça voudrait dire que c'est l'abandon de la lecture ou du phénomène de la lecture, cet abandon existe depuis très très longtemps. Et donc déjà très longtemps, nous avons un problème de l'importance de ce qu'on peut considérer comme avantage de la lecture.
Oui,
on n'a jamais démontré ou sensibilisé les gens à cette culture de la lecture.
Oui, mais par le passé, il y a 20 ou 30 ans, il y avait au moins un taux plus ou moins acceptable de la lecture que de nos jours, ça s'est régressé avec le temps, professeur.
Oui, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de données par rapport à l'année ou les années avant 2007. Mais on avait effectivement l'impression, au regard de la manière dont la scolarisation était organisée, on avait l'impression que l'école poussait la population à la lecture. J'avais donné l'exemple de mon école primaire en 1973, dans la cité de Katanda au Kasaï oriental à l'époque, où on avait des armoires avec des ouvrages dans nos classes. Et au-delà de ces ouvrages, de ces armoires, nous avions également des petites bibliothèques à l'école. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, je peux justement affirmer que le taux pouvait être un peu plus élevé, le taux de lecture était un peu plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, pour revenir sur les facteurs, il y a déjà cette question de la disponibilité des ouvrages, disponibilité de bibliothèques. Dans ma cité, à l'époque, il n'y avait pas une bibliothèque, mais on allait lire quelques ouvrages dans les paroisses. Les églises catholiques organisées avaient des bibliothèques et nous allions dans ces bibliothèques. Et je me rappelle que c'est là que j'avais lu pour la première fois un ouvrage, des petits ouvrages, des petites brochures de Saint Paul, où il y avait par exemple, je me rappelle le titre de Jeune fille prépare ton mariage. Et ça là, ça a été publié depuis très 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 longtemps. J'avais également signalé les brochures de Zaminga Batukezanga. C'était dans une paroisse. Les bandes dessinées de Tintin et de Kwaku, je les avais lues dans une paroisse, la bibliothèque paroissiale. C'est là que j'avais découvert ces livres-là, alors que nous étions à l'intérieur. Ce n'était pas dans des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani. C'était à l'intérieur, dans une cité comme Katanda, une cité comme Gandajika, où j'ai vécu.
Et le constat est amer. Même au sein des universités, les bibliothèques, si elles existent, elles ne sont pas assez. Les fonds documentaires n'est pas abondants et les ouvrages ne sont pas régulièrement actualisés. Les problèmes, il est presque général, professeur.
Le problème est général. Quand vous allez dans les bibliothèques universitaires, vous serez même déçu. Je prends l'exemple d'une université de province où j'étais passé en échangeant avec celui qui était recteur à l'époque. Dans cette université, je préfère taire le nom. Le recteur m'a fait visiter la bibliothèque, mais c'était une armoire avec quelques mémoires. Et il m'a demandé si je pouvais rassembler les mémoires de notre faculté et les lui envoyer. Je ne sais même pas s'il est en train de me suivre. Et donc, lorsque vous allez dans les quelques universités, la plus grande, je n'ai pas fait l'enquête, mais je peux vous affirmer qu'il n'y a pas d'ouvrage ou qu'il n'y a quasiment pas de bibliothèque dans la plupart de nos universités. Et même dans les vieilles universités, ce qu'il y a là comme ouvrage aujourd'hui, fonds documentaires, c'est beaucoup d'ouvrages, je ne vais pas dire dépassés, parce que un ouvrage, c'est un stock. Mmh. C'est un stock de savoir, un stock de connaissances. Mmh. Même si ça a été produit il y a très très longtemps.
Il y a 20 ans.
Mmh. Ça vaut quelque chose.
Exactement.
Oui. Exactement. Mais, les ouvrages assez récents, je pense qu'il n'y en a pas suffisamment. Pour avoir moi-même été, citoyen à la recherche, j'ai été chef d'un département et même doyen d'une faculté, et je sais de quoi je parle.
Et vous comptez au sein du Centre de renforcement de capacité d'études sur la santé, la population et le développement, Crespo dans sigle, lancer une campagne pour susciter les goûts de la culture, de la lecture à travers la République. C'est à partir de ces constats que vous avez pris l'initiative. Dites-nous les modes opératoires de cette campagne.
Oui, en fait, pour stimuler l'intérêt de la lecture, il y a plusieurs stratégies. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle le défi ou rallye de la lecture. Il s'agit simplement d'un concours de lecture, une pratique qui améliore l'intérêt pour la lecture. C'est aussi, je dirais, une bonne porte pour la promotion de la culture de la lecture. Je me suis servi de quelques témoignages de ceux qui ont mené cette campagne en termes de défis ou rallyes de lecture. Dans le cadre de cette pratique, cette philosophie, il s'agit là, c'est un jeu en fait, parce que c'est un jeu et c'est moins contraignant. Et c'est une expérience sociale dans un contexte ludique. Bon, une animation ludique, c'est-à-dire c'est une activité où l'intérêt c'est de procurer le plaisir à l'enfant. Donc l'enfant, on fait jouer à l'enfant les jeux de la lecture. Et donc, on a des enfants, ils peuvent être à 5-10, chacun lit et il peut mal lire, les autres vont rire, mais il y a un encadreur qui va indiquer ou apporter la bonne lecture et les enfants vont répéter. C'est en fait un jeu, c'est vraiment une dynamique. Et donc c'est en nous inspirant de ça que nous avons pensé qu'il faut, à partir de nos bandes dessinées, parce que notre structure édite les bandes dessinées. Cette bande dessinée est dénommée Déborah, qui existe depuis 2017.
Avec des thématiques spécifiques, professeur, est-ce qu'il y a des thèmes, des thématiques qui captivent, qui peuvent intéresser les enfants?
Oui, justement. Les thématiques, nous avons énormément de thèmes que nous avons développés et qui donnent non seulement des compétences, mais aussi qui renforcent certaines valeurs positives. Donc l'idée c'est pas seulement de faire d'amuser les enfants, mais c'est à travers ces amusements on transmet des valeurs, on transmet des compétences. Par exemple dans le domaine de la salubrité, dans le domaine de l'égalité homme-femme, nous avons des bandes sur la scolarisation des filles et des garçons et surtout l'importance de la scolarisation des jeunes filles. étant donné que dans nos sociétés, on prépare généralement la fille au mariage à être une bonne épouse pour son mari, mais pas devenir un cadre supérieur. Nous avons comment aider les déplacés, nous avons comment éviter certaines stigmatisations, nous avons fait une bande sur comment un albinos peut être doit être considéré comme un homme normal ou une femme normale, la même chose pour les personnes vivant avec un handicap. Nous avons par exemple comment aider les déplacés de guerre. Notre pays connaît beaucoup de cas de déplacement de guerre. Si vous allez à Kinshasa, vous allez trouver que la vie qu'on mène là-bas, c'est comme s'il n'y a rien à l'est. Et donc, c'est sensibiliser également nos communautés sur les malheurs qui frappent nos compatriotes. La passation civilisée du pouvoir en RDC, c'est un événement important.
En 2019, oui.
Et donc, nous avons consacré toute une série de bandes
dessinées.
La lutte contre Ebola, oui. Et la lutte contre la Covid. Vous savez que l'Ebola n'est pas terminé, compte tenu de notre environnement écologique. Ebola va toujours être là dans plusieurs provinces. Le viol, on en parle, la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. C'est une grande préoccupation et un fléau dans notre pays. Donc nous y avons consacré des bandes dessinées. Nous avons comment éviter les mariages précoces. La planification familiale, c'est bien d'avoir des enfants. Enfanter, c'est bien, mais planifier, c'est mieux. Et ça, c'est la planification familiale. Comment éviter les comportements sexuels à risque? Eh bien, il y a énormément de thèmes, au point où certaines structures, notamment, dernièrement, nous avons eu la commande de l'UNFPA, l'UNFPA qui travaille sur la santé sexuelle et reproductive, la santé sexuelle des jeunes.
Les Fonds Nations Unies pour la population.
Pour la population, justement, Kananga a pu commander une série de thèmes pour pouvoir appuyer la bibliothèque du Centre des jeunes de Kananga.
Professeur, on vous garde en ligne. On vous garde en ligne, le temps de donner la parole aux auditeurs. On va partir au standard et puis on va retourner vers vous. Ne quittez pas la ligne. Gardez l'écoute. Nous rappelons que vous êtes démographe et directeur du Centre des recherches du renforcement des capacités d'études sur la santé, la population et les développements. Comment susciter la culture de la lecture chez les Congolais? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder au cours de ces rendez-vous d'Okapi Service. Et si ces ciseaux vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-99-41. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Le premier auditeur, il appelle à partir de la ville de Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu. Il s'appelle Eminent Mwanda. Eminent, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour à l'invité et bonjour à tous les invités de la radio.
Nous vous écoutons.
Et je sais très bien que ça c'est un sujet très important, d'autant plus que l'éducation est en train de perdre certaines valeurs parce qu'on ne veut pas s'appuyer à certaines parties préalables de l'éducation. Parce que si je m'aligne à l'idée d'Aristote qui avait dit ceci, j'ai dit, moi qui informe, cela veut dire que l'individu, tout ce qui passe au niveau de l'éducation, doit d'abord utiliser les coûts de l'éducation. Il y en a même, je crois que c'est moi qui avait dit ceci. Si vous voulez seulement cacher une chose à un Congolais, pour seulement le mettre dans les écrits, parce que les Congolais sont désintéressés par la lecture, et cela me rend beaucoup plus analphabète après avoir étudié. La lecture étant un levier de l'éducation devrait être efficace depuis le bas âge. D'abord, il y a certaines écoles qui manquent même de bibliothèques. Et pour ça, il y a des conditions, dans des conditions pour qu'une école soit érigée, moins plus qu'une université, il faut qu'il y ait une bibliothèque propre à cette école. Mais j'ai des amis enseignants, messieurs Tassis, qui envoient même les travaux pour les élèves de l'école, mais ces élèves-là, c'est important seulement pour ceux qui se trouvent sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas le temps d'aller consulter les bibliothèques. Et pour ça, les informations, les données fiables pour faire notre recherche, c'est tout bien dans le livre. Mais ce que nos éducateurs ne font pas seulement, avec c'est parmi d'abord les conséquences de la modernité, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment, ne manque pas d'imperfection. Mais la modernité vient vraiment tuer l'esprit d'écriture au sein des intellectuels et pas au sein des élèves. C'est pour cela que le pied est assis. Il est encore temps. On sait encore redynamiser l'esprit d'écriture. On peut encore utiliser l'esprit d'écriture en imposant aux écoles le livre. Parce que même actuellement, il y a certains cours qui s'enchaînent seulement avec le support manuel, par exemple les cours de français. Mais d'autres cours là, un enseignant qui seulement avec peut-être son antique et commence à lire ainsi de suite. Et même les enfants n'ont pas même le bout de lire. Peut-être qu'il avait même à ce temps-là, il y avait des horaires qui étaient écrits dans ce document là-bas. Il répète ça parce que les gens n'ont pas la culture de faire la comparaison, n'ont pas la culture de lire. Parce qu'on peut lui donner un résumé à un élève actuellement, il ne lira plus ça. Bien seulement, il se réveille après, il va à l'école, demain, et comme ça, même préparer les examens, il n'y en a pas. Je crois que le résumé, vous avez même évoqué un sujet très important, comment on peut préparer les examens de ça. Les élèves ne sont pas plus les épreuves. Ils sont là, ils disent pas qu'il y a même des lois, des politiques d'éducation pour la réduction des choses que dans les milieux scolaires. Imaginez-vous, on impose aux écoles d'enregistrer au moins 90% de récits. Alors, comment même les abrutis passent comme ça, mais les gens qui ne savent pas lire, et après, c'est ce que nous allons inciter à une génération.
Merci beaucoup, monsieur Éminent Mwanda. Oui, nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu que vous intervenez. Merci pour vos suggestions. Mais est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport au sujet?
Oui, moi, j'ai des questions spécifiques, premièrement. Quelle est la politique que le gouvernement met en place pour que la culture de l'écriture soit encore, imposé au sein des élèves? Ça, c'est la première question à l'éducation. Deuxièmement, pourquoi les écoles n'ont plus aussi la responsabilité d'imposer la culture de la lecture au sein des élèves? C'est des questions-là, je veux que l'éducation vraiment nous donne des réponses. Quelle est vraiment la vraie politique pour que la lecture soit vraiment dans les actes des apprenants?
Merci beaucoup, Monsieur Éminent Mwanda. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Kisangani pour donner la parole à Thomas. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous, Monsieur Thomas.
Bonjour, Monsieur Jotati. Et bonjour à l'invité, et ce qui est une fois de plus à tous les auditeurs de la radio Okapi. Merci beaucoup, Monsieur Tati, de la parole nous accorder. En tout cas, la thématique qu'on a déjà même abordé, bon, comme la lecture, ça, c'est vraiment, comme vous avez bel et bien entamé tout au début, monsieur Tati. En tout cas, d'après déjà, la culture de la lecture, ça joue un rôle, en tout cas, fondamental, parce que elle constitue, en tout cas, si vous voulez, monsieur Tati, en tout cas, un vecteur de connaissances et d'ouverture d'esprit, voire même de créativité, monsieur Tati. Mais on voit ici dans ces pays, ici en RDC, surtout que les défis socio-économiques, ça bloque en fait également ces problèmes-là de la lecture. Parce que, premièrement, d'abord, pour qu'il y ait la culture de la lecture, il faut qu'il y ait il faut promouvoir également l'accès à la lecture. Ça, c'est la première étape, mais c'est dit. Il faut promouvoir l'accès à la lecture. C'est comment ça doit se passer? Premièrement, il faut qu'on doit susciter la culture de la lecture à travers qu'on a d'abord des lieux où on a d'abord, parce que la plupart de nos hommes sont en insécurité, vous imaginez, ça c'est déjà un problème, ce sont des difficultés, c'est-à-dire rencontrer des difficultés là, d'ouverture de par exemple, des athènes, des bibliothèques, parce que vous voyez dans certains coins du pays, il y a ce problème-là de sécurité, et ça procurer déjà un livre ou des ouvrages, ça pose un sérieux problème face à ça. Et pour remédier à ça, il faut qu'il y ait le développement des bibliothèques publiques, à travers ces zones-là. La question qu'on peut se demander, est-ce qu'on a, en tout cas, des bibliothèques à travers les pays? Et si cela s'avère, c'est quels sont les ouvrages qui sont là? Parce que vous imaginez, vous allez dans des bibliothèques, vous trouvez qu'il y a des livres là, de l'antiquité, alors que actuellement, l'homme est appelé à évoluer. Il y a la technologie qui est ça. Et par rapport à ça, vous voyez que les gens plus se focalisent au numérique, parce qu'actuellement, si vous avez votre méga, votre giga, vous pouvez suivre pas toutes choses, aller à la bibliothèque, vous allez. Donc, bibliothèques sont très pauvres quand à fait. Il faut qu'il y ait, on puisse approvisionner, en tout cas, développer les bibliothèques, la bibliothèque, pardon, à public, là, ça puisse être, en tout cas, sur l'ensemble du pays. Deuxièmement, il faut qu'il y ait également, mais c'est à dire, les renforcements de l'éducation et de la sensibilisation. C'est-à-dire, on doit éduquer, en tout cas, mais également sensibiliser la population sur la formation et l'habitude de la lecture. Est-ce que la population est informée ou sensibilisée? Parce que mon prédécesseur a parlé ici, il suffit que l'on puisse cacher quelque chose dans nos livres, vous voyez. Les gens n'ont pas, en tout cas, cette curiosité-là de jeter même un coup de. Dans nos livres, dans nos journaux, mais c'est très important, il faut qu'il y ait la sensibilisation et l'éducation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait. La population doit être informée quant à ça. Et comment cela doit se faire? On peut même instaurer ou intégrer dans des programmes, dans des cursus scolaires ou académiques. Cet aspect des choses-là, c'est très important pour encourager les élèves davantage à aimer ou à susciter la culture de la lecture, messieurs Tati. C'est-à-dire, les enseignants ont un rôle rattaché, mais également les chefs d'établissement, mais également même les parents également à la maison, et aussi parce que pour donner aux enfants, en tout cas, la culture de la lecture. C'est aussi les parents doivent emboîter les pas, faire visiter également leurs enfants, mais également les enfants emboîter ou à aimer la culture de la lecture.
Merci beaucoup, M. Thomas.
Les chefs d'établissement.
Merci beaucoup, M. Thomas. Mais est-ce que vous avez des questions spécifiques, particulières par rapport à la thématique? Vos suggestions, elles sont vraiment intéressantes.
Merci beaucoup. Parce qu'il y a de la question, c'est-à-dire, je ne sais pas si l'invité est là, comment les écoles peuvent-elles également intégrer, en tout cas efficacement, les programmes de la lecture dans le cursus scolaire? C'est la première question que l'invité pourra nous donner, parce qu'actuellement, le programme est déjà préétabli. Je ne sais pas si comment est-ce que les écoles peuvent intégrer, en tout cas, même les programmes de la lecture dans le cursus scolaire. La deuxième question, monsieur Tardy, quelles sont en tout cas les ressources nécessaires pour soutenir les écrivains et également promouvoir les élèves? Parce qu'il y a nos collègues également, nos amis qui s'intéressent à la lecture. Je ne sais pas quelles sont en tout cas les ressources nécessaires pour les soutenir davantage à œuvrer dans la culture de la lecture, M. Tati.
Merci beaucoup.
Je l'ai déjà emboîté dans les. dans mon exposé, mes citations.
Merci beaucoup. C'est vrai que les écrivains, les auteurs, c'est vrai, et puis les éditeurs, hein, et ce secteur souffre sérieusement ici en République démocratique du Congo. Presque pas de financement, pas d'appui. Donc, l'invité aura le temps de répondre à tes préoccupations. Chers auditeurs, nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Kolwezi pour donner la parole à Madame Claudia. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour à l'invité, merci pour la parole accordée. Oui, comment susciter la culture de la lecture chez les Congolais dans ce monde des réseaux sociaux, si ces derniers n'ont pas eu cette culture dès le bas âge? Encore faudrait-il que les parents aient cette culture pour pouvoir l'inculquer à leurs enfants. Mais si ces derniers ne lisent pas, en tout cas, ça revient à l'école de se battre pour initier les enfants à la lecture dès le niveau primaire ou maternel. Oui, les élèves doivent apprendre à lire tel que l'invité l'a dit, en dehors des manuels scolaires. Ils doivent aussi lire des autres livres ordinaires.
Des bandes dessinées, par exemple.
Je pense qu'il faut sensibiliser. Pardon?
Des bandes dessinées, par exemple.
Oui. Oui, Nicombe, les démons, tout ça. Oui. Je pense qu'il faut aussi profiter quand les parents se réunissent en assemblée générale, hein, communément appelée réunion des parents, pour les sensibiliser chaque fois. Parce que c'est vraiment le moment ou jamais. Parce que si nous, notre génération ici, nous ne faisons rien pour promouvoir la lecture, pensons-nous que nos enfants, à leur tour, feront quelque chose?
Non.
Ça, je ne pense pas. Vous voyez, nos parents qui n'avaient que les simples brevets comme niveau d'études, ils savaient parler, s'exprimer, lire, écrire. Mais comment est-ce possible que de nos jours, nous puissions avoir des universitaires ne sachant ni lire, ni écrire, ni s'exprimer? C'est vraiment déplorable comme situation. Un élève qui obtient son diplôme d'État sans jamais avoir à parcourir un dictionnaire de toute sa vie. C'est pas normal. Puisqu'il n'y a pas encore la politique de la promotion de la lecture. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque moi, je pense que normalement, on devait allouer aussi des fonds à la littérature comme aux autres arts et loisirs. Mais puisque cela n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Moi, je pense que ce sont les écrivains qui doivent se réunir en corporation et travailler sur un programme, parce que tout doit partir d'un programme. On travaille sur un programme, là, on initie maintenant les scientifiques, l'université, les politiques, tout ça, pour que tout puisse partir d'un programme. C'est ce que j'ai un peu comme suggestion.
Merci beaucoup. Et on les considère comme un plaidoyer. On doit allouer des ressources pour le secteur de la lecture, de la documentation et de l'archivistique. Merci beaucoup. Excellente journée au niveau de la ville de Kolwezi. Il y a Roger Marcel. Vous nous appelez depuis la ville de Kinshasa. On vous donne la parole. Allez-y rapidement. Le temps de retourner vers l'invité.
Ouais, merci beaucoup, mais c'est à partir de Tchikapa.
Ouais. On vous écoute.
Ouais, merci beaucoup pour la thématique. Ouais, merci beaucoup pour la thématique du jour. Moi, je pense que le plus grand travail reste au niveau de l'État, parce que si vous regardez aujourd'hui, même dans notre époque, il y avait quand même des livres. Il y avait à chaque cours, on vous donne un livre. Il y avait même des livres, vous partez avec ça à la maison pour préparer un peu des cours. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on ne voit pas dans les écoles. J'ai constaté la plupart des enfants, l'enfant qui est maintenant en sixième, lorsque vous lui donnez un livre pour vous lire un peu, faire la lecture, c'est ce qui pose un grand problème. Je me demande, ça, c'est lié au niveau de l'enseignement ou bien ce sont les enseignants qui n'enseignent pas bien, on n'arrive pas à comprendre. Parce que nous, on avait peut-être le temps d'aller constater les romans, aller... tu vois, tu lis ça à la maison, demain tu viens à l'école, on ne te passe, tu exposes. Mais c'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Vous constatez même dans les écoles, il n'y a pas même de livres. Lorsque l'enseignant cherche à enseigner, il va se débrouiller pour acheter un livre pour venir enseigner aux élèves. Les livres qui manquent même dans les écoles, si vous allez même au niveau de l'université, ce sont toujours les mêmes choses qui se passent. Vous ne voyez pas les livres. Les gens n'ont pas encore l'envie encore de lire. Nous, c'était vraiment difficile de passer même une semaine à deux semaines sans toutefois chercher même un livre pour lire. Est-ce qu'en lisant, ça vous facilite un peu de mieux connaître un peu des mots, de mieux s'adapter, même si vous êtes même devant les gens, vous lisez, les gens écoutent, non, non, la personne ici a eu quand même une bonne éducation, il a eu quand même une bonne instruction. Une instruction par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Moi, je pense à ce secteur-là, que l'État congolais puisse se donner beaucoup, que les inspecteurs puissent aller dans les écoles faire un peu de suivi. On ne peut pas construire une école sans toutefois avoir une bibliothèque. Quand vous construisez une école, il n'y a pas une bibliothèque. Alors, regardez avec les programmes des 145 territoires. J'y ai passé partout là pour voir. Vous voyez, on construit l'école, mais il n'y a pas une bibliothèque.
Quand ce qui n'est pas normal.
Les enfants vont aussi... Ce qui n'est pas normal, les enfants vont se nourrir en quoi? Parce que c'est à travers des livres, histoire, géographie, anatomie, ce genre. L'enfant lui-même, avec les livres à la maison, il va lire, comprendre. Avant qu'il passe rentrer à l'école, l'enfant quand même a déjà eu à comprendre même quelque chose. Lorsqu'il passe à l'école, il va demander à l'enseignant, non, j'avais lu quelque part, l'enseignant va avoir quand même les explications pour expliquer l'enfant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Je pense que non, c'est le temps qu'il y a encore les grands travaux, même dans les écoles privées, même aujourd'hui, même à Kinshasa. Là, j'ai eu même à parcourir partout, même dans les écoles privées, pour voir un peu dans des écoles, il y a des bibliothèques, c'est tout un grand problème. J'ai connu à nous l'école, la cinquième.
Malheureusement, la liaison s'est interrompue.
Oui,
ok, merci beaucoup pour tes suggestions. Mais est-ce que vous avez des questions particulières à poser à l'invité?
J'ai une question que je dois poser à l'invité.
Allez-y.
Je pense un peu à ce secteur-là. Ouais. En tant que lui, il est vraiment expert dans ce domaine-là. Est-ce qu'ils ont eu quand même le temps de parcourir même dans des écoles pour faire un peu des suivis, pour un peu voir un peu le niveau des enfants? Ou bien qu'est-ce qui manque que, par rapport à ça que l'État congolais peut aussi améliorer?
Merci beaucoup, Monsieur Roger Marcel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Chicapa que vous intervenez. Professeur, je me tourne vers vous. Comment répondez-vous à nos auditeurs?
Oui, merci, mon cher Tati. Je vais justement commencer par Monsieur Roger Marcel de Chicapa. Il a noté que le plus grand travail incombe à l'État. Et il a donné une très belle illustration. Le programme de 145 territoires qui a construit des écoles. Et on construit une école, mais on ne pense pas à une bibliothèque. Et c'est ce que ça rejoint cette vision de lundi au sujet du manque d'une politique nationale de la lecture ou du livre. Ça voudrait également dire que nos dirigeants ont perdu de vue, ça a échappé aux planificateurs. Ça a vraiment échappé aux planificateurs. Ce besoin, cette priorité n'est pas dans le programme du gouvernement. Lorsque vous entendez les candidats députés parler au moment de campagne électorale, aucun candidat député n'a à l'esprit le fait que d'autres populations ne lisent plus. Cela ne fait pas partie de la priorité. Lorsqu'on a des marches à faire, je n'ai jamais vu une marche d'un parti politique qui va réclamer auprès du gouvernement la construction ou l'alimentation, l'approvisionnement des bibliothèques.
Oui, ou d'un centre de documentation. Ça, non.
Sans centre de documentation. Ça n'existe pas dans les têtes de ceux qui veulent diriger ce pays. Et c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Et cela explique le fait que nous avons une population comme elle est là, et elle ne sait même pas quoi réclamer des dirigeants.
Alors, professeur, parlez-nous de la campagne que vous allez initier parce qu'on est en période de vacances scolaires et Crespo envisage lancer cette campagne de la culture, de la lecture ici en République démocratique du Congo. Je vous ai posé la question sur la méthodologie et je reviens encore. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre et est-ce que vous avez déjà contacté des partenaires qui peuvent vous appuyer dans le cadre de ces projets?
Oui, nous avons déjà commencé à contacter des partenaires. Et le premier partenaire, c'est l'État congolais.
C'est l'État congolais, oui.
Nous avons contacté l'État congolais. Parce que, en fait, c'est le travail de l'État congolais, ce que nous allons faire. Et l'État congolais a des partenaires aussi. Et nous sommes en train de contacter ces autres partenaires. Parce que si vous regardez les Nations Unies et certaines agences de certains États amis à l'État congolais, viennent en appui à l'État congolais, au gouvernement congolais. Et donc, nous avons déjà entrepris des contacts avec certaines institutions pour qu'elles puissent nous venir en appui à ceci. Et sur le plan de la stratégie, nous avons pensé frapper à la porte de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons au moins un député pour chaque territoire et nous avons des députés pour les grandes villes. Alors, l'idée, c'est que si chaque député peut accepter de pouvoir soutenir cette campagne au niveau de sa circonscription électorale, à ce moment-là, nous n'aurons pas discriminé les enfants. Parce que si nous-mêmes, nous pouvons aller dans les grandes villes, mais nous ne saurons pas atteindre les milieux rural, étant donné que la République ne se situe pas au niveau des villes ou des grandes villes. Donc, cette démarche est en train d'être menée. Nous avons déjà eu quelques échos positifs et nous continuons à prendre des contacts. Des contacts avec certains gouverneurs, parce que pour cette campagne, nous avons besoin également de l'accompagnement d'abord du ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui est avec les gouverneurs et avec les administrateurs du territoire. Donc, les contacts sont en train d'être pris. Là où je passe, je rencontre certains gouverneurs, si c'est possible, ou le ministre provincial ayant dans ses attributions la culture et les arts. J'en ai déjà fait au niveau de Lubumbashi. J'ai contacté également, j'ai parlé avec le ministère de l'Intérieur, le ministre provincial au niveau du Kassai-Oriental. J'ai rendez-vous avec le gouverneur de l'Omani.
Il y a également le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et éducation à la citoyenneté qui est aussi un secteur assez stratégique dans le cadre de cette sensibilisation, professeur.
Oui, j'ai été frappé à la porte d'une autorité. Et d'abord, on m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, le monsieur n'a pas décroché. J'ai dû envoyer deux textos, il n'a pas réagi. Je suis allé à son bureau, j'ai rempli le billet de demande d'audience. J'ai fait 3 heures sans suite. Je suis parti alors que j'avais laissé mes coordonnées. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore été contacté. Et donc, vous dire que...
Ça démontre qu'il y a on n'accorde presque pas d'intérêt à cette thématique assez capitale, professeur.
Exactement. Par contre, j'ai été très bien reçu en primature. J'ai échangé avec un grand responsable qui m'a donné également des idées, des orientations. Je salue cette ouverture. J'ai été au Parlement, j'ai parlé avec un des très grands responsables. Je n'avais pas terminé l'entretien et on avait pris rendez-vous. Malheureusement, il était en déplacement. La porte était ouverte à Lubumbashi. Donc, si d'autres compatriotes ne trouvent pas l'importance pour cela, il y en a d'autres encore qui sont très, très ouverts et qui sont prêts à nous accompagner, y compris les jeux. Et donc, c'est une affaire nationale. c'est d'importance capitale. Nous faisons que réveiller les consciences. Les parents aussi, j'ai été très bien accueilli par le président Jacques Joaquier, le président de l'Association nationale des parents des élèves et étudiants en groupe, qui a salué le projet. Et donc, il y a, comme je disais, certains compatriotes qui n'ont jamais rien compris, et qui ne comprendront peut-être presque pas, mais qui privilégient, donc ils ont un peu de moyens, d'envoyer leurs enfants à l'extérieur. Pendant qu'ils sont en train de trôner sur les Congolais et les abrutissants. Un des auditeurs a parlé tout à l'heure du fait que on cache, si on veut cacher à un Congolais ou à un Africain une information, il faut mettre ça dans le livre. C'est vrai ou c'est faux, parce que, comme je disais, vous avez l'Égypte qui est un des premiers pays africains où on a fait la promotion de la culture de la lecture. Nous avons l'Afrique du Sud. J'étais en train de suivre, avant cette émission, une émission au Sénégal, où on fait la promotion des bibliothèques. Et on a indiqué dans cette émission qu'en Côte d'Ivoire, les grands écrivains sont inscrits ou enregistrés à l'enseignement primaire et secondaire. Eh bien, il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Nous devons vulgariser, nous devons sensibiliser, appeler notre gouvernement à avoir une politique nationale du livre, une politique nationale.
Ça, c'est très, très important, parce que dans nos villes, il y a beaucoup plus des bistrots, terrasses et autres que des bibliothèques et des centres de documentation. Même des maisons communales n'ont pas des bibliothèques des communes, ce qui est très étonnant pour une si grande nation, professeur.
Oui, en fait, c'est prévu. Moi, j'ai été à la commune de Karamo à Kinshasa, et j'étais surpris d'apprendre qu'ils avaient un espace pour la bibliothèque. Mais c'est pas sensibilisé. J'ai posé la question au bourgmestre de l'époque. J'ai dit, mais est-ce que vous avez donné l'information à votre population que vous avez une bibliothèque à côté ici? Et cette bibliothèque, c'était des ouvrages qui étaient donnés par une commune belge.
Merci beaucoup, professeur. Oui, l'État imparti à ses rendez-vous est presque consommé. Merci beaucoup, professeur Barthélémy Kalambayi. Nous rappelons que vous êtes démographe et directeur de Cresport SARL. Excellente journée et à la prochaine occasion.
Merci beaucoup, Tati. À vous aussi. Bonne journée.